CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur
d'onde. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Tout le monde, bonjour. À Montréal, il fait pas soleil, mais il fait quand même beau. C'est la dernière journée, je pense, qu'on a de répit d'été. Puis après, on sort nos doudounes. Aujourd'hui, on a de belles visites. Je suis toute excitée. J'espère que les filles vous aussi, parce que je suis avec des filles. Hein, on reçoit en filles deux excellents musiciens. Je parle à Éric Goulet, qui était d'ailleurs dans les années 80 un très jeune musicien avec son groupe Possession Sim, qu'on a entendu à notre émission du 15 septembre. Puis aussi M. Monod, il est le leader des Chiens, qui a remporté le Félix pour la réalisation de leur album La Nuit dérobée en 2001. Il a une carrière solo qui assume son côté country, je pourrais dire. Puis cet album solo, entre autres, il y en a un qui s'appelle « La nuit, le soleil, les étoiles ». C'est un thème qui est récurrent dans l'œuvre des Chiens. Où est-ce que je m'en vais avec mon affaire, là? Anyway, dans les Chiens, d'ailleurs, on parle souvent dans les titres « La nuit, le ciel, les étoiles », puis on va y revenir lorsqu'il sera question de vos inspirations. Mais il y a quelque chose là. Avec nous également, on a David Marchand, qui collabore avec plusieurs artistes depuis les années 2010, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et puis, les guitaristes pour le groupe Mon Doux Seigneur, toujours le cas?
Oui.
Puis, avec Étienne Dupré, qui est bassiste pour le même groupe, David a démarré un nouveau projet avec ce dernier, ainsi qu'avec le batteur Francis Ledoux. Il s'agit du groupe Zouz, que j'ai découvert par hasard. Je l'ai déjà raconté celle-là, mais on était sur le parvis de l'église du Bic. Mais, donc, c'est ça. On ne reviendra pas là-dessus. Mais nous avons reçu David et Étienne l'an passé pour parler de ce projet. Puis on a entendu leur musique ici, tout comme celle d'Éric, durant nos émissions de l'an passé et cette année encore. Aujourd'hui, on ne s'en privera pas du tout. Mais avant, David m'a mentionné que leur collaboration à Éric et lui pour un troisième artiste qui est Tom Chicoine, s'est avéré dernièrement, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Ça fait combien de temps à peu près?
C'est l'année passée.
L'année, ben, moi, vous autres?
Oui, c'est sorti même cette année, au début de l'année.
Oui, c'est ça.
Mais nous, on l'a fait depuis un an ou presque deux avant ça.
Puis, comment ça marche une collaboration comme ça, là?
C'est jamais pareil, mais dans le cas de cet album-là, c'est Tom qui écrit les chansons, donc lui, il joue avec Dave, Alex Berger, Mandela, et Mandy, pour les intimes, c'est comme vous, je l'appelle tout le temps Mandy, là, je voulais dire son vrai nom, et je me suis trompé, bon. Donc, c'est ça, ils font des arrangements ensemble, moi, je fais un peu, je suis musicien aussi, je m'implique un peu dans le truc, puis... Dans le cas de cet album-là, j'étais plus un peu comme une éminence grise, là, ou blanche, disons, qui est un peu en retrait, puis qui donne son avis quand c'est le temps de le dire, puis qui essaie de se fermer la gueule quand c'est le temps de laisser les choses aller. Donc, ça a été une genre de collaboration comme ça, très naturelle, très agréable. Il t'a donné un magnifique album qui est en nomination pour l'album Country de l'année.
Ah bon? Colin, on va peut-être reprendre là-dessus, mais on va écouter justement, ça s'appelle « Moteur Super Sport » et c'est Tom Chicoine qui va jouer là.
Start ma vie, même si à l'origine
gaz, ça saute comme un obus, ça met des étoiles où y'en a plus. Mais j'ai un Black Lake Suit, puis j'ai un léger coup d'ailleurs. Tu veux pas de break, heartache, face face au vent, voir un peu l'or, puis twister la poignée du moteur, soit sport.
Mais là, on est justement en train d'élucider le mystère. Qu'est-ce un producteur? Qu'est-ce un réalisateur? Et puis, je résumerai pas. C'est pas à moi de le faire, c'est à vous autres. Est-ce que vous pouvez expliquer au public, aux gens au Montréal, aux Québécois?
Bien, écoutez, la première raison pour laquelle les gens sont un peu confus par rapport à producteur, réalisateur, ça vient du fait qu'en anglais, on appelle le réalisateur d'un album le « producer ». Alors que dans les faits, nous, au Québec, moi, dans la francophonie, le producer, c'est celui qui sort les sous. Mm-hmm. Donc, c'est le producteur de l'album. Tandis que le réalisateur est ici la personne qui va souvent avoir le rôle de gérer le budget, s'assurer que tout est...
Le budget aussi, c'est
ça peut aller jusque-là. Moi, ça fait quand même presque 30 ans que je fais ça, réalisateur, entre autres. Et c'est jamais les mêmes conditions, c'est jamais le même mandat. Il y a des fois, ça se recoupe. Mais je veux dire, t'es toujours un petit peu... Moi, je me considère un peu comme un genre de chaînon manquant. Je suis la personne qui est là pour combler ce qui manque, organiser ce qui marche pas. Des fois, s'il y a une erreur, s'il y a des trucs... Des fois, il y a des textes de certains chanteurs ou chanteuses qui sont... Ça marche pas, tu sais. Mais souvent, les personnes vont leur dire parce que soit qu'ils veulent surtout pas être obligés de s'en mêler ou qu'ils le savent pas eux-mêmes, bref. D'arriver, de superviser tout ça, de superviser que les arrangements sont bien faits, que les paroles sont bien écrites, que les interprétations sont justes. Et après ça, ben là, il y a tout le processus du mixage, s'arranger que tous les sons sont aux bonnes places, au bon volume. Puis, enfin, ça peut aller, tu sais, dans toutes les directions.
Est-ce qu'il y a une différence entre quand tu as commencé puis maintenant? Parce que je pense à David qui en fait lui aussi. Je pense, pour Mal aimé Soleil, tu as fait de la réalisation.
Oui,
pour voir la différence.
C'est une question très intéressante, parce que justement, moi, j'ai commencé dans un milieu de travail, un milieu économique qui était très, très différent du milieu où est-ce que, dans lequel Eric a commencé il y a 30 ans. Mm-hmm. Puis, mais justement, je serais curieux de savoir comment est-ce que les choses ont changé pour quelqu'un qui a vu justement ces deux...
La grosse différence, je pense que ça va un petit peu aussi dans toutes les disciplines, mais c'est que quand moi j'ai commencé, si on parle des années 80, il y avait les studios à l'époque, c'était des institutions. C'était des endroits très grands, très équipés, très dispendieux. Auxquels peu de mortels avaient accès. Donc, pour pouvoir accéder à un vrai studio, dans les vraies conditions d'enregistrement, il fallait que tu sois très riche ou que ton père soit très riche ou qu'une compagnie de disques avec des gros sous t'ait pris sous son aile et te paye le studio. Fait que ça, c'était un peu comme ça que ça se passait quand moi j'ai commencé. Et moi, étant ni riche ni rien de toutes ces affaires-là, j'ai commencé à développer des façons de contourner ces affaires-là pour pouvoir enregistrer des chansons.
Le génie québécois.
Donc, plus un patenteux, je dirais. Mais, j'utilisais deux machines à cassette avec un petit mixeur entre les deux. Là, j'enregistrais une voix, une guitare sur une cassette. Je faisais jouer la cassette dans le mixeur. Là, puis pendant que j'enregistrais sur l'autre cassette, là, je faisais une autre partie. Puis, c'était un cauchemar parce que les machines ne tournaient jamais à la même vitesse. Puis en tout cas, c'était dégueulasse. Mais c'est pour dire que j'ai toujours essayé de contourner les problèmes d'accessibilité à la production. Dans ce sens-là, je parle de produire quelque chose. Mm-hmm. Et donc, tranquillement, sont apparus les premiers quatre pistes à cassette qui étaient là. Ça n'avait plus besoin de passer d'une machine à l'autre. Tu avais une machine où tu pouvais faire du multipiste, ce qui consiste à enregistrer une piste, ensuite enregistrer une autre piste, et ainsi de suite, ou séparer un petit peu les éléments. Mm. Au lieu de tout le monde autour du... Les premiers enregistrements, c'était un micro, puis tout le monde était autour du micro, puis c'est puis toi, avance, ouais, toi, ouais. Recule, toi, moins fort, toi, plus fort, puis c'est comme ça qu'on mixait les disques.
France, t'avais une question, André?
Ben oui, en fait, c'est que j'ai vu... je crois que c'est toi qui a fait une petite entrevue sur vidéo, sur Internet, qui parlait de l'avenue de la pandémie. Ça a changé beaucoup de choses, puis il a fallu que les musiciens et les créateurs soient créateurs, justement,
oui,
puis innovateurs,
oui,
parce que personne ne pouvait sortir de chez eux.
Mais la technologie était, au moins, la technologie était déjà là. S'il y avait eu une pandémie comme celle qu'on a connue il y a 30 ans, je ne suis pas sûr que les gens auraient fait autant de disques, parce qu'ils ne pouvaient pas faire de ça. Personne ne pouvait travailler chez lui à l'époque. Personne n'avait... Maintenant, la différence entre aujourd'hui, en gros, et cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, chaque musicien peut potentiellement avoir un studio dans sa maison, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Moi, j'ai appris à gosser des studios de fortune pour produire des trucs, puis graduellement, je suis devenu compétent à faire ça, et forcément, ça a attiré des gens de mon entourage, de dire... « Hey, t'as réussi à faire ça, toi? Tu ferais-tu m'aider à faire mon... » Fait que là, le fil en aiguille, j'ai commencé à aider d'autres personnes à faire leurs propres disques, puis c'est comme ça que ma carrière de réalisateur s'est développée.
Fait que s'il arrive, mettons, une grosse panne mondiale, là, toi, tu vas savoir quoi faire.
Oui, oui, mais ben moi, je suis un peu
comme... un petit peu mal pris.
Je suis un peu comme le MacGyver. Je suis capable de le faire avec un élastique puis un tournevis.
OK, c'est bon.
Bien dit.
Mais moi, je me demandais si... est-ce que quand la nouvelle technologie est arrivée, ça a été comme... Oh mon Dieu, ça va devenir tellement plus facile. Ou,
ah ben oui.
Ou je suis tellement habituée avec mon affaire que.
Non. Non, au contraire. Moi, j'étais toujours été. Chaque nouvelle affaire qui arrivait, au début, c'était des machines à ruban qui étaient quand même compliquées d'entretien, tout ça. Là, tranquillement, après ça, sont arrivées les premières machines digitales, numériques. Là, c'était comme, waouh, tout à coup, on peut avoir une petite machine comme ça, puis une petite console, puis aller n'importe où avec ça. T'sais, ça a été une autre affaire dans ma vie. Faire des enregistrements, d'aller chez les artistes ou d'aller dans un chalet une fin de semaine, une semaine, s'installer dans le chalet parce qu'on pouvait tout transporter, l'équipement. Moi, j'ai toujours été
enthousiaste
et très enclin à épouser les nouvelles technologies. Il y a juste l'ordinateur face auquel j'ai été réticent parce que je craignais un peu le... Et on est tous toujours confrontés à ça, mais tout le monde est... des mises à jour, puis ces affaires-là, le fait qu'après un certain temps, tu ne peux plus utiliser tel truc. Ça, j'ai vraiment anticipé ça d'avance, mais à un moment donné, je n'ai pas eu le choix d'y aller, mais je constate que ma réticence était bien fondée. Malgré le potentiel de tout ça.
Ouais. Est-ce que tu te sens à l'aise, David? C'est une drôle de question. Là, tu es réalisateur, tu es jeune, puis je te vois... Là, j'ai regardé plus ces affaires-là pendant que je me préparais pour aujourd'hui. Puis, je pense que c'est la passion qui est ta grande drive, puis l'amour de la guitare, tabarouette, c'est incroyable, là. Mais est-ce que tu te sens solide pour la réalisation? Est-ce que c'est difficile? Tu commences, là, je me pose la question.
Ben oui, je pense que oui. Ben, je pense que tout est difficile. Ça dépend à quel point que tu t'y investis, puis à quel point que tu... est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est... Après, un moment donné, je sais pas, un moment donné, on accepte de pas être prêt ou d'être prêt, là, mais je pense qu'on fait de notre mieux, peu importe avec ce qu'on a puis qu'est-ce qui se présente à nous. Du coup, on va dire d'autre par rapport à ça, je sais pas, parce que je fais de mon mieux, je pense que c'est ça.
Oui, mais bien, moi, j'ai remarqué que c'était très réussi. Vous allez chacun dans des avenues, mais en même temps, Eric, tu as passé par du rock un peu plus solide, je dirais. Puis là, David, avec Zeus, s'en va vers du rock solide aussi. En tout cas, moi, à ma perception des choses. Et puis, j'essaie de voir comment toi, tu vois ça, l'évolution de ton approche, je dirais, puis celle de David aussi qui est une approche différente avec Zeus qu'avec, un autre groupe. Ou...
Mais chaque projet nécessite sa propre approche. Tu ne peux pas approcher... tu sais, j'ai fait des disques avec René Martel, Patrick Normand. Je veux dire, tu ne travailles pas avec Patrick Normand, René Martel, la même façon que tu travailles avec un jeune artiste qui sort son premier album puis qui sait à peine jouer de la guitare.
Comme t'sais. Vincent Vallière d'abord.
Vincent Vallière, quand j'avais travaillé avec lui, il avait déjà un album derrière la cravate, si on peut dire. Puis là, ben, ce qu'il voulait à ce moment-là, quand lui m'avait approché, c'est qu'il voulait, il trouvait que son premier disque était trop poli, trop lisse, trop cute, si tu veux. Et là, il voulait avoir quelque chose d'un peu plus sale. Parce que moi, j'avais à l'époque, j'avais déjà travaillé avec WD-40, puis ainsi de suite. Et le premier disque, le deuxième album des Chiens, La Nuit dérobée, qui était un peu low-fi, si on veut. Donc, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que j'amène ça. C'était ça, mon mandat cas de cet album-là. Mais chaque mandat d'album peut être différent. Un autre artiste, ça peut être le contraire. Il peut dire « Ah, moi, j'ai aimé tel disque que tu as fait avec un artiste. T'sais, c'était super léché. Il y avait des arrangements de cordes. Puis c'était tout ça. Moi, c'est le genre d'affaires-là que je veux. T'sais. Moi, je suis capable de me promener depuis le temps que j'ai... Après tous les projets que j'ai fini par faire, je suis capable de m'adapter.
Okay.
Je peux écrire des arrangements de cordes s'il faut.
À Daniel Lanois, qui paraît qu'on le reconnaissait. Ou Brian Eno, qu'on dit « Ah, il y a du Brian Eno là. »
Ben, c'est deux réalisateurs que j'admire, mais plus pour leur méthode que pour leur... Ben, leur son, oui, leur son est admirable dans les deux cas, mais je veux dire, moi, je veux jamais voulu être un réalisateur comme ça. Parce qu'on est vraiment un réalisateur.
Pour t'entends l'artiste. Le son,
puis tu sais que c'est un tel. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que je veux pas que ça paraisse. Si quelqu'un me dit, ah, c'est toi qui as réalisé ça, waouh, je savais pas, mais c'est le meilleur compliment que tu peux pas me faire.
OK.
C'est ça que je recherche. Moi, je suis pas là pour me mettre en valeur, je suis là pour mettre l'artiste en valeur. Puis si, au final, les gens trouvent que l'album est bon, mais qu'ils ont jamais remarqué qu'il y avait une réalisation en arrière, ben voilà. Boulot accompli.
D'ailleurs, on l'aime-tu, hein?
Oui.
David, c'est de la musique à tes oreilles, j'imagine, ça aussi. Parce que toi aussi, quand j'ai entendu Mal-aimé, Mal-aimé Soleil, il faut que je m'habitue à le dire. Parce que c'est très bon en passant, je les ai vus juste avant Zouz. Et puis, c'est différent de vous autres, mais il y a ta touche là-dedans pareil, là.
Ben, je pense que j'essaie d'avoir une approche similaire à celle de Rick, là, c'est-à-dire de pas me mettre en valeur moi ou de pas me mettre mon propre ego, mes propres goûts, même musicaux en valeur. Je pense que le mandat là-dedans, c'était de vraiment faire en sorte que le groupe, lui, s'épanouisse le plus possible au sein de cet album-là. Puis je pense que j'ai bien fait mon travail à ce niveau-là. Du moins, les gars sont assez contents. C'était leur lancement hier.
Ben oui.
Fait que, je sais pas, j'en suis particulièrement heureux de ce disque-là. Je trouve que les chansons sont bonnes, que chacun des musiciens du groupe est très épanoui dans ce disque-là. Puis oui, la musique à mes oreilles. Oui, j'aime beaucoup Rick, j'aime beaucoup son travail, puis j'aime beaucoup l'écouter parler. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui aussi, avec Tom Chiquan. C'était vraiment un disque super intéressant à faire. Ou est-ce que Rick, c'est super... Ben, en fait, tout le monde s'est très bien adapté à l'autre ou dans les sessions d'enregistrement. Puis, hein, je sais pas. Bref, je pense que je vais y laisser la parole.
Mais les filles, ont peut-être des questions, là.
Mais moi, j'en ai une, mais ça va dans une autre direction. Mais je dois avouer que ça me chicotait, puis je réfléchissais à ça, parce que tantôt, Eric parlait un peu des privilèges à l'époque qui pouvaient aider, genre, un musicien, une musicienne à starter sa carrière. Puis j'étais comme, wow, mais comme... Selon vous, ce serait quoi aujourd'hui les privilèges qui peuvent aider quelqu'un? Tu sais, comme, je sais pas.
Ah, mais je veux pas dire par là que c'était nécessairement meilleur. Moi, ma question, ma réponse tantôt était par rapport à la différence entre aujourd'hui et maintenant. Je sais pas si c'est meilleur aujourd'hui ou à l'époque. Je pense que chaque époque a ses défis. Il y a des gens qui sont avantagés sur quelque chose puis qui sont désavantagés sur d'autres choses. Fait que je pense que là, tu sais, c'est peut-être une grande conversation à avoir, mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, je compare mettons à mon époque, là, je me sens comme mon grand-père quand je parle.
La plus vieille.
Mais tu sais, il y avait les accès aux studios étaient beaucoup plus difficiles, l'accès à la diffusion d'une certaine façon était beaucoup plus difficile parce que si tu n'avais pas une compagnie de disques qui faisait ta promotion, mais tu avais beau avoir, mettons, un père millionnaire ou une mère, peu importe, mais avoir fait ton disque, l'avoir entre les mains, avoir des boîtes de disques dans ton garde-robe, je veux dire, tu ne peux pas les mettre nulle part à part te mettre sur le coin de la rue puis vendre tes disques. Tu ne peux pas mettre tes disques dans le magasin. Tu ne peux pas faire tourner tes chansons à la radio. Tandis qu'aujourd'hui, la radio est même plus si importante que ça, à part CIBL, bien sûr. Mais je veux dire, les gens peuvent mettre leurs chansons sur Bandcamp, sur YouTube, sur Facebook. Tu peux avoir accès à toutes ces plateformes-là, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Fait que tu vois, il y a ça. Mais le fait qu'il y ait tout ça fait en sorte que là, il y en a tellement que ça devient extrêmement difficile, je pense, pour les plus jeunes artistes de se démarquer du lot. Parce qu'à l'époque, quand tu étais mis de l'avant, les gens portaient attention parce qu'il n'y en avait pas comme 40 000 qui sortaient en même temps que toi. Il y en avait juste un ou deux autres. Mm. Tandis que maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Là. Je dis, tu as des, ouais. des chefs-d'œuvre. C'est comme il y en a qui disent qu'il y a plus de bruit de fond maintenant qu'il y en avait à l'époque. Ça, même si on était à l'époque du numérique. Là,
mais... maintenant, il y a 40 000 chansons par jour qui sortent sur Spotify ou quelque chose comme ça. Tu sais, je disais, par jour, 40 000 chansons.
Ben dire, voyons donc. Ben, comment ça, tu veux ressortir?
Ben voilà.
Je veux dire, maintenant, le défi de l'époque actuelle, c'est de se démarquer par rapport aux autres. Puis, c'est ça, ben, quand maintenant toutes tout le monde peut faire un album chez eux, finalement. Bien, ça fait que tout le monde le fait, puis tout le monde le diffuse sur les mêmes plateformes. Mmh. Puis comment est-ce que tu veux même penser pouvoir te démarquer de ça, de sortir du lot? C'est extrêmement difficile.
Mais parallèlement à ça, il y a des salles, des plus petites salles qui ouvrent. En tout cas, il me semble qu'il n'y en avait pas autant. Je me rappelle de...
Il y a des vagues.
Divan Orange.
Il y a des vagues. Parce que moi, j'ai connu... Mettons, au début des années 2000, ça a été, je dirais, dans ma carrière, en tout cas, en 2000-2005, dans ce coin-là, c'était un peu comme un âge d'or. Parce que ça a coïncidé à un moment où il y avait vraiment beaucoup de petites salles. Mm-hmm. Je parle de salles de 100-150 places. Il y avait comme le Va-et-Vient, le In Vivo, le Verre-Bouteille qui est encore là aujourd'hui. Mm-hmm. Le Scogriffe qui est encore là, mais qui est moins une petite salle que c'était, ainsi de suite. Bref, il y avait beaucoup de petites places un peu coopératives comme ça qui existaient et qui donnaient une place à la relève. Parce que mm-hmm. je ne sais pas, moi, des fois, je me dis encore, suis-je dans la relève? Je ne sais plus. Mais bref, à l'époque, je pense que j'étais dans la catégorie. Puis, donc, mais toutes ces salles, beaucoup de ces salles-là ont disparu maintenant. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas... C'est une complexité... qui est plutôt irrésoluble, je pense. On ne peut pas vraiment...
par nature, les salles ouvrent puis ferment.
Oui, il y a ça aussi.
Ça,
ouais.
C'est comme... Ouais. Ça va un peu avec la game.
Exact.
Mm. Non, moi, je pensais qu'il y avait une recrudescence. Pour moi, ça m'a échappé.
Oui, dans un sens. Il peut y avoir une certaine recrudescence, mais ça ne sera pas nécessairement le même genre de salle. Ça ne sera pas nécessairement le même genre de public. Fait que c'est tout le temps en mouvement, tout ça. Mm-hmm. S'il y avait une solution simple, on l'aurait trouvée, ça fait longtemps. T'sais. C'est le même problème avec l'industrie du disque ou tout ça, on dit tout le temps, ah, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, ben, on peut juste faire son possible, puis se croiser les doigts, puis espérer qu'on va s'en sortir.
Avez-vous des questions, les filles?
Moi, j'ai une question, mais oui. ça pareil, c'est pour vous emmener ailleurs aussi. Moi, ça fait comme pas très longtemps que j'habite au Québec, et je trouve qu'il y a quand même une couleur, il y a une teinte dans la musique québécoise et très montréalaise aussi. Mm-hmm. Si vous pouviez vraiment vous couper de vos origines et puis de tout ce qui vous a construit ici, vous partiriez vers quelle direction musicale, si, genre avec une couleur de pays à explorer ou...
Si je comprends bien ta question, je veux dire que parce qu'on ne peut pas vraiment choisir ses origines.
Si, mais si on pouvait, genre, vous rebooter et on vous reboot avec toutes vos expériences, vers quoi est-ce que vous iriez, je ne sais pas moi, instinctivement?
Une question, c'est quand même une question un peu théorique, mais je te dirais en théorie, moi, j'irais peut-être sûrement pour la musique africaine.
Okay.
Le blues, Touareg, là, ce genre, ça, c'est vraiment quelque chose qui depuis plusieurs années, là, me captive, me fascine. C'est un peu l'origine de toute la musique qu'on joue aujourd'hui, de toute façon. Mm-hmm. Fait que si j'avais à choisir, mettons, hypothétiquement, d'autres origines musicales, j'irais définitivement de ce côté-là. J'essaierais d'aller encore plus à la source de ce qui est la musique d'aujourd'hui.
OK. Et toi, David?
Ben, je pense que ça dépend. On dit que ça change à chaque semaine. Ça dépend de ce que j'écoute sur le moment. Mais je pense que à l'instant où on se parle, définitivement, je serais un membre de Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone.
Du R&B.
Funk, ouais.
Funk.
Ouais, j'écoute beaucoup leur vinyle ce temps-ci. Fait que définitivement, je serais un des membres de leur famille, définitivement.
Ah, ben là.
Et donc, sachant ça, comment est-ce que vous pourriez vous aider mutuellement dans vos projets?
Tu pourrais.
On va en plus des disques ensemble.
Hein? Ben ouais, c'est ça. Écoute, je pense que le funk, de toute façon, descend du blues africain. Donc, je pense qu'on pourrait facilement faire
un
merger. Mais tu sais, en même temps,
c'est
ça, comme c'est hypothétique. Parce que moi, je me prépare à arriver aujourd'hui et dire je vais me mettre à faire du blues africain. Surtout dans les temps l'appropriation culturelle et tout ça, je pense pas que ça passera au comité, mais,
ouais.
Puis, mais j'ai toujours une fascination pour, en fait, les musiques de tout le monde entier. Puis, je veux dire, mes origines musicales, à moi, sont tellement éparpillées. Je veux dire, ça part vraiment, tu sais, du classique que j'écoutais quand j'étais enfant. Après ça, au country que mes tantes et oncles écoutaient.
Mm-hmm.
Et ensuite, le rock que mes autres tantes et oncles plus jeunes écoutaient. La musique qui jouait à la radio dans ce temps-là, c'est, j'ai découvert Charlebois, Ferland, tous ces gens-là. T'sais. Fait que c'est ça qu'après ça, une fois qu'on était exposé à toutes ces choses-là, le reste, ben, tout ce qui arrive, c'est juste de l'enrichissement.
Merci. Est-ce que vous êtes déjà retenu d'essayer des choses, de faire des choses en musique?
Oui.
Ah oui?
Quoi, par exemple?
Sly and the Family Stone. je sais pas, j'ai beaucoup de rêves et d'aspirations. Souvent, je me lève le matin et je me dis souvent que j'aimerais donc bien faire l'album le plus country jamais fait au Québec. Mais un goût, non, j'avais jamais fait. C'est encore drôle parce que là, on parle de quelqu'un qui. On parle
ben
à
oui,
quelqu'un
c'est
inspiré
ça.
Qui.
Avoir cette prétention.
Mais tu sais, je pense que justement, ben, le rêve est un moteur au progrès de soi-même puis tout, puis c'est bien d'avoir des aspirations puis de rêver, puis j'essaie de cultiver ça le plus possible. Je pense pas un jour me rendre au bout de tous ces rêves-là, parce que ben là on pourra m'enterrer peut-être là, mais où est-ce que j'allais avec ça, je sais pas trop, mais oui, je pense que d'avoir des aspirations musicales ou même artistiques en général plus grandes que ce qu'on vit au moment où est-ce qu'on idéalise tout ça. Je pense que c'est très bien, puis c'est sain d'avoir ça. Fait que ça pour dire que oui, tous les jours, tous les matins que je me lève, j'aimerais faire un autre disque plus punché.
En fait,
que...
la question vraiment, c'était est-ce que tu t'es empêché de faire des choses?
Ah, empêché? Mais ben, je pense que les contraintes de temps, les contraintes de voir... Tu sais, je pense que les... Je sais pas si je me suis empêché, mais... Mais tu sais, des fois, on part des projets, on part des groupes de musique où on fait des trucs, puis là, ben, faut aller au bout de ces idées-là. Ben, en allant au bout de ces idées-là, ben, on finit par en plus à s'empêcher de faire d'autres idées. Puis
je pense déblaye,
que. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est important là-dedans de finir ce qu'on a commencé, puis d'aller au bout de certaines idées, quitte à en faire peut-être un peu moins. Mais fait que peut-être que oui, je me suis empêché. Je pense que c'est une question aussi intéressante à poser à Eric qui est plus vieux que moi, Eric. Finalement. Là.
Ben, moi,
il reste 30 secondes.
J'essaie de pas avoir de...
30 secondes?
Oui, okay, oui. 30 secondes. J'essaie de ne pas avoir de limites. Je pense que les limites qu'on a sont souvent notre imagination. Moi, j'essaie de rester tout le temps ouvert, curieux, de toujours penser à des nouvelles idées, de penser à des nouveaux trucs. Fait que moi, je me suis jamais... consciemment empêché de faire quoi que ce soit. Il n'y a jamais quelque chose que je me suis dit « Ah, ça, je n'ai pas question que je fasse ça.
Mm-hmm. »
C'est plutôt, comme disait un peu Dave, c'est la limite des fois du temps ou de l'esprit. On n'a juste pas... On ne peut pas tout faire dans la vie, tu sais, mais volontairement avoir des clones puis leur dire « OK, toi, tu vas faire ça. »
Ouais,
c'est
ça,
cool,
ça,
hein?
Ça, comment, moi, j'ai hâte de me cloner.
Peut-être qu'on pourrait multiplier les projets comme ça. Mais déjà, j'en fais... Des fois, je me dis que j'en fais trop, mais j'essaie de ne pas trop me limiter pour autant.
Et là, ben, va falloir attendre à l'après les pubs pour entendre nos deux. Écoute, faut les entendre. On a entendu Tom Chicoine, mais il faut entendre Eric, il faut entendre Zouz de David Marchand et de ses acolytes que je nommerai tout à l'heure. Puis là, ben, on s'en va vers les pauses, puis on se prépare pour la prochaine demi-heure. À tantôt!
Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner 2 500 $ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL1015.com. Dès le 22 octobre, on joue au bingo de CIBL tous les dimanches dès 16h.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.
Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
Chat d'avance. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Eh bien, on va entendre tout de suite Eric qui va nous chanter une chanson de son projet, Monsieur Mono. Puis ça tombe bien parce que j'ai une question là-dessus tout de suite après. Tu vas nous interpréter quoi?
Une chanson qui s'intitule « Tout autour ». Ça va comme suit.
Tout autour, y a ceux qui courent. Tout autour, y a ceux qui vont. Tout autour, le ciel est bleu. Tout autour, tu n'es plus là. Tout autour, le vent de froid. Tout autour, le vent se lève. Tout autour, le monde a peur. Tout autour, tu es ailleurs. Ton lit me garde là. À l'abri de tout ce qu'il y a. Tout autour, la vie est belle. Tout autour, la mort nous broie. Tout autour, j'entends des rires. Tout autour, mais pas ta voix. Tout autour, la mer descend. Tout autour, et l'eau s'envole. Tout autour, les femmes sont belles. Tout autour, mais pas comme toi. Ton lit nous garde là. À l'abri de tout ce qu'il y a. Tout autour, y a l'univers. Tout autour, et ses mystères. Tout autour, il y a l'amour. Tout autour, mais pas toujours. Mais tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, la 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 la. La 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 la.
Merci.
Hey, c'est nous qui te remercions, Seigneur. C'était de toute beauté. C'est quoi la différence entre Monsieur Mono puis Eric Goulet?
Oh, ben maintenant, il n'y en a plus vraiment. c'est juste qu'à une certaine époque, quand j'ai fait cet album-là, Pleurer la mer morte, en 2005, c'était des chansons que j'avais écrites suite à une déconvenue amoureuse considérable. Mm-hmm. Et donc, j'avais créé un cycle de chansons sur ce thème-là, si on veut, et proposé ces chansons-là aux gars du groupe qui, me connaissant et connaissant ma situation, tout ça, étaient vraiment trop mal à l'aise.
C'est trop personnel.
Par rapport au contenu, il n'était pas à l'aise du tout de chanter, jouer ces chansons-là. Fait que moi, j'avais ce cycle de chansons-là, une dizaine de tunes, tu sais, que j'avais faites, puis qui étaient toutes finies. Puis, mais là, je faisais écouter des fois à des amis, tu sais, mm-hmm. Ils écoutaient ça, puis t'es là. Donc, Mais là, voyons, c'est la meilleure affaire que t'as jamais faite. Comment ça se fait que tu sors pas ça? Je dis, ben là, tu sais, les gars du band ne veulent pas. Puis là, je dis, ben là, mais fais un album solo, tu sais. Fait que là, ben là, l'album solo.
Ben, pas stéréo, mono.
Je trouvais, ben voilà. Fait que là, j'ai jonglé avec l'idée, peut-être je préfère un Émile Ajard, tu sais. J'ai eu l'idée de faire un genre de personnage qu'on sait pas c'est qui, puis son nom est jamais là, puis il fait un livre dans son cas, ou un disque dans mon cas. Puis de le faire à petite échelle, copie vraiment 500 copies artisanales, pochette faite à la main, tout ça. Genre, OK, si on fait un genre de truc comme ça, c'est correct, ça me va, parce que je trouvais que, c'est comme premier album solo, c'était peut-être un peu intense. Je voulais pas nécessairement être. Enfin, bref. Et contre toute attente, ça a été probablement mon plus grand succès commercial. Les 500 copies ont été distribuées aux Anges Vagabonds sur Mont-Royal à l'époque. Je pense que tout s'est vendu, 500 copies en 3 jours. Il fallait que j'en fasse un autre 500. Heureusement, j'avais 1000 CD de fait. Donc, j'ai réussi à en sortir un autre 500 la semaine d'après, qui est toute partie encore d'un coup. Fait que là,
il y a des fans vraiment
ça
de
été, Mono. Ça avait été ton, tu sais, ça a été un album qui avait fait un peu sensation à l'époque. T'sais, Isabelle Boulay en avait parlé. Contre toute attente, tu sais. Mais là, ça avait comme créé un...
Mais l'amour...
Un monstre. Mais l'amour, on se tente pas de ça. Hein?
C'est ça, l'affaire, tu sais. C'est souvent ça, bien évidemment.
On n'en vient jamais.
La question, l'inspiration. Mais si on veut en sortir de cette question-là, vous, quand vous créez... On a déjà posé la question à Zouz. Puis Zouz, vous, c'était la musique puis l'espèce d'énergie que vous aviez en studio qui faisait que la toune arrivait, puis que... elle devenait vivante. Toi, j'ai l'impression que des fois, c'est la musique, puis des fois, c'est les paroles.
Ah oui, c'est sûr que c'est jamais...
Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la même chose pour David et ses acolytes. Là.
Mais c'est jamais la même chose. C'est sûr qu'il y a une question qu'on se fait poser des fois, c'est-tu la musique, les paroles, qui est en premier. Dans mon cas, il n'y a pas de réponse à ça, parce que des fois, c'est les deux en même temps. Des fois, c'est la musique. Je n'ai pas de musique. T'sais, j'ai une autre chanson au piano qui s'appelle L'Abattoir. J'avais la musique depuis un an. Je savais c'était quoi, tu sais, je la jouais, puis j'étais comme, je savais pas quoi faire avec ça du tout. Puis à un moment donné, puis ça c'est terrible cette histoire-là, mais en revenant, puis ça fait plusieurs années, tu sais, mais c'était, en revenant d'un show à Lac-Mégantic, j'ai eu l'idée de cette tune-là, puis là, des années plus tard, est arrivée l'affaire terrible, là, j'étais comme, mon Dieu.
Oh non,
mais la chanson parle pas de train, de rien, là, je veux dire, mais, tu sais, j'ai trouvé ça drôle, ben pas drôle, mais cruel, ou en tout cas, ironique d'avoir écrit une chanson inspirée d'un séjour à la Mégantic qui s'appelait L'Abattoir.
Moi, mais David, est-ce que je suis dans le chat quand je dis que c'est plus la musique d'abord chez vous?
Ben, c'est un peu comme Eric, ça dépend. Je pense que l'important, c'est... Ben, le but, c'est d'avoir une bonne chanson, peu importe la trajectoire, là, qui... Ben, moi, dans mon cas aussi, des fois, c'est plus souvent la musique, moi, qui va...
Parce que quand je te vois jouer de la guitare, je dis, mon Dieu, il est en symbiose, là, c'est fou, là.
Ben, j'aime bien jouer de la guitare, mais je veux dire... Parce qu'une bonne guitare ne fait pas nécessairement une bonne part de guitare, fait pas nécessairement une bonne chanson. Je pense que c'est plus complexe que ça. Là. Mais des fois, ça m'est arrivé aussi d'avoir des textes sans musique aussi, puis juste d'écrire des trucs. Je pense que tant que l'émotion est là, puis que la pulsion parce que ça reste quand même au final des émotions, là, de la musique, là, si on veut, là, c'est ça qui est important finalement. Là. Fait que, ouais.
Ben, les artistes, dans le fond, on est des antennes, puis c'est important de toujours être debout pour ça. Fait que c'est de toujours être un peu à l'écoute de ce qui se passe. T'sais, moi, je veux dire, j'ai tout le temps des notes que j'écris, des idées. Des fois, j'entends une phrase, je pense à une phrase, je l'écris. Ouais. J'ai comme des petits calepins qui traînent à gauche, à droite, puis je suis tout le temps en train de noter. Ben, pas tout le temps, mais à l'occasion, ça serait pas pire. Puis là, tu gardes ça, puis à un moment donné, là, tu as une idée de musique. Des fois, là, tu dis, OK, là, des fois, tu te donnes aussi des petits projets. Tu dis, ah,
mais là, je te vois aller, quand tu parles de musique, je te vois aller les doigts. Puis moi, j'ai préparé plein de questions par rapport à la guitare, ce qui vous liait tous les deux.
Oui. Mais la guitare aussi, là, j'ai fait ça parce qu'il y a une table devant moi. Là, mais
c'est ça.
C'est plus facile si j'ai un piano.
Mais l'instrument, là...
L'instrument, à un moment donné, il devient plus important, tu sais, Non. Je pense que tu as une idée de chanson. Il y a des chansons que j'ai écrites dans ma tête. Tu sais, j'entendais le band. J'avais pas un instrument. Ouais. Après ça, je prends le premier instrument qui me tombe sous la main pour... OK, les accords, c'est ça. Ouais, les accords, c'est ça. Puis après ça, je peux communiquer mon idée aux gens. Tu sais, mais ça arrive souvent que... Tu sais, plus que tu en fais, j'imagine, dans la vie, c'est ça qui arrive. Au début, tu n'es peut-être pas capable d'avoir l'idée d'une chanson complète sans passer par un instrument, puis ainsi de suite. Mais graduellement, à force d'en faire, on dirait que je pense que ça devient plus... naturel.
Fait que là, contrairement à ce que je pensais, c'est pas l'instrument comme la musique, votre première pulsion là, qui vient. Là.
Oui.
C'est les sons dans vos têtes.
Oui.
Mais je pense qu'Éric puis moi, je pense qu'on aime beaucoup les chansons. Hein. Mm-hmm. Fait que peu importe la façon de s'y rendre, je pense que c'est ça qu'on enfonce, ça notre objectif, toujours d'avoir la meilleure chanson possible et tout. Puis que ce soit la guitare ou le piano ou le drum ou la batterie.
L'instrument importe peu. Tu sais, moi, il y a plein de chansons que j'ai écrites sur un instrument, puis j'ai fini par jouer sur un autre. Me dire, c'est pas.
Ah ouais.
C'est pas.
Ben, oui, ça,
la musique, nous, les musiciens, ben, comme tout le monde, on est habité par la musique, tu sais, autant que. Juste que nous autres, on a plus l'aptitude, peut-être, de communiquer ce qu'on a en nous autres, tu sais. Mais je veux dire, on est tous. Tu sais, tout le monde a une tourne en tête, une fois de temps en temps, tu sais, puis. Mm-hmm. Mais c'est pas tout le monde qui va se donner le trouble de finir la chanson parce que pourquoi je ferais ça, sans intérêt, ou peu importe, mais oui. Mm-hmm.
Bien, je me demande ça. C'est peut-être pas une bonne question, mais...
Il n'y en a pas de mauvaise.
Si, est-ce que ça devient, à un moment donné, une déformation professionnelle que c'est plus facile de communiquer, des enjeux plus touchés ou de cette façon-là, en chantant, en écrivant de la musique, en composant, ou même la musique vous aide dans votre communication verbale avec les gens en général? C'est assez vaste, là, comme
non,
question.
Bien, assurément, si j'avais quelque chose à dire au sujet de quoi que ce soit dans le monde, j'essaierais pas de faire ça autrement qu'avec une chanson. Mm. Dans mon cas, parce que je suis pas quelqu'un qui a des études universitaires, je peux pas écrire un manifeste, je pourrais écrire de quoi comme ça, mais j'oserais pas prétendre prendre la plume, puis...
Mais tu subis, puis tu vis la vie pareil.
Écrire quelque chose, parce que c'est mon mode d'expression,
oui,
c'est sûr. Mais je veux dire, il y a bien des choses que j'ai... Il y a bien des chansons que j'ai écrites, mettons, pour dire à quelqu'un, que ce soit pas face à face, parce que c'est juste un moment, une torture totale d'arriver, je vais chanter une chanson, mais dans le sens, plus de façon, plus de façon, plus de façon, j'ai écrit des chansons d'amour que peut-être pour ma fiancée, comme ça, mais sinon, c'est plus comme, tu sais, moi j'ai des communications, j'ai des conversations avec soit certaines personnes fictives ou réelles, des fois. Puis je peux me servir justement de la musique ou des textes, la plupart du temps, pour dire quelque chose que je pense au sujet de telle ou telle situation.
Mais je trouve justement, ta génération, la mienne, on était plus revendicateurs dans nos chansons, tandis que la nouvelle, il me semble que j'entends pas au Québec, en tout cas.
Je sais pas, ça dépend sur quel sujet.
Ouais, je suis pas trop d'accord.
Mais... non. Tu parles de revendications politiques, mettons?
Ouais.
Ben,
tu sais, dans le temps, on voulait séparer puis tout, là.
C'est ça, je pense que les enjeux ont énormément changé. Les enjeux politiques, ils ont énormément changé. Je pense que ça dépend vraiment de quel... je pense que les enjeux, mettons, de ma génération, puis celle qui est un peu plus jeune, celle qui est début vingtaine, je veux dire, toute la question d'identité de genre, c'est extrêmement présent dans beaucoup, beaucoup de musique à travers le monde.
OK, que je vais pas écouter.
Je pense que les enjeux politiques, les enjeux identitaires, je pense que pour votre génération, les enjeux politiques et les enjeux identitaires étaient un peu très, très reliés. Dans notre cas, je veux dire, moi, de faire des chansons sur François Legault, j'en verrais pas vraiment, honnêtement, l'inspiration artistique derrière ça. Je pense qu'il y a différentes façons d'être politisé. Mais je pense que ça dépend vraiment des gens, ça dépend des clics, ça dépend...
Ouais, les clics, il y en a-tu?
Oui.
Oui,
hein? Les clics? Ben, il y a toujours des clics, c'est sûr.
Ouais.
Il y a toujours des...
Dans votre milieu, oui.
Ben, dans tous les milieux.
Ouais, c'est ça.
Plus en musique qu'ailleurs. Je pense qu'en théâtre, il y a certaines gangs. Puis... Mm-hmm. C'est normal.
Non, business.
Mais
les gens sont comme ça. On est comme, mm-hmm. Je pense que ça remonte aux origines de l'humanité, les tribus, toutes ces affaires-là. Je veux dire, maintenant, la différence aujourd'hui, c'est que tu peux choisir ta tribu, chose que tu ne fais pas faire à l'âge de pierre. Mm-hmm. C'était plus difficile un peu. Mais... Ça, on n'y échappe pas, là.
D'accord, Lynn Debine. J'avais dit que j'avais préparé des trucs pour les joueurs de guitare qui sont avec moi aujourd'hui, qui sont avec nous. Moi, j'ai apporté un disque ici, puis je me demandais si vous aviez la même relation que lui. Alors, on voit ici Ian Ackerman, qui est au lit avec sa guitare, puis elle lui caresse le dos. Est-ce que... Donc, tout à l'heure, vous avez un peu répondu à la question en disant Ben, c'est plus la musique que l'instrument lui-même, mm-hmm. avec qui j'ai une relation, mais...
Oui.
Alors, non, la guitare,
des fois, je me mets
au
lit avec ma guitare, puis je, pour que... Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, mais je veux dire... peut-être que même, je me suis déjà endormi, puis la guitare était à côté de moi. C'est peut-être déjà arrivé. Mais c'est sûrement pas quelque chose qui arrive souvent.
Non, mais c'est pas une passion, là, pour...
Moi, je suis passionné par la guitare depuis
longtemps. Oui, toi, très, c'est clair. Très, très
moi,
je dis pas que...
Je dis, moi, j'en ai comme une trentaine de guitares.
Mm-hmm. En plus que ça, oui, comme en plus que 30, je suis sûr.
J'ai fait un recensement, une fois.
Ah ouais, 30.
Ça tourne autour de ça. Ah oui, mais aussi, j'ai les claviers. Ça.
Ah ouais, c'est ça.
Bref, oui, dans mon cas, dans nos cas, il y a toujours un côté un peu fétichiste aussi de l'instrument, parce qu'on va se le dire, on pourrait tout faire avec la même. Oui,
c'est ça.
Mais il y a toujours le... Moi, je vois ça un peu comme un peintre, tu sais... qui a différentes sortes de couleurs, différentes sortes de pinceaux, parce que tu peux tout faire avec un seul pinceau, c'est sûr, tu sais, mais je veux dire, ah, mais là, je peux pas aller faire ça, étonné.
Ouais.
Parce que les guitares, c'est la même chose. Certaines guitares ont un son particulièrement tranchant, comme la Telecaster, qu'il n'y a pas une autre guitare qui peut faire ça aussi bien que ça. Bref, tu sais, c'est comme ça. On est des consommateurs.
Je pense que ce serait le temps là, qu'on écoute du
souk.
Oui,
on est dû là.
Oh, mon Dieu. Okay.
Commence à être clinqué. Là.
Oui.
Allons-y. We'll be right back.
Je suis en onde et je suis contente de dire que j'ai vu ce groupe en spectacle. Je vous invite d'aller le voir. C'est... même si je suis vieille, moi, j'aime ça, la musique groove comme ça. J'aime ça, la musique qui me fait, tu sais, avancer le corps comme ça, là. La tête qui se fait aller, tout ça. J'adore ça. J'ai une question pour vous autres parce que je suis allée voir Gab Bouchard. J'étais tout proche de la scène. Puis à un moment donné, moi puis Mélissa, on était... Les gars, ils n'ont rien vu, ça. Mais nous, les deux femmes, on a vu le sang sur sa guitare. Puis là, on était inquiètes, là, mais il est en train de se blesser. Puis au fur et à mesure qu'il jouait, puis il faisait aller en tabarouette, la guitare était de plus en plus pleine de sang. Est-ce que ça vous arrive là, de complètement oublier là, de votre état physique et puis de vous laisser aller comme ça? Là? Mais toi, je sais que tu es capable. Parce que le dernier show que je suis allée voir, Eric, je parle à Eric et je le pointe du doigt. Éric, il se donne en tabarouette aussi en spectacle. Puis là, j'ai vu, quand j'ai revu des trucs de Possession simple, j'ai dit, ah, c'est lui qui revient pendant ses spectacles. Là.
Ben, c'est jamais parti bien loin. C'est sûr que dépendant de la nature du spectacle, mettons, M. Monod, qui est beaucoup plus introspectif, je vais peut-être pas me mettre à sauter partout, mais je veux dire, tu sais, c'est d'être en symbiose avec la musique. Je veux dire, c'est comme, c'est comme une transe. Il faut être à la hauteur de ce que tu proposes musicalement, j'ai l'impression. Tu peux pas être juste là. Pis, j'en ai vu des shows là, de gros rock, puis c'était tellement plate. Là, on voit que les gars, ça y avait le choix de partir. Moi, je veux dire, les gens qui viennent voir un show, qui viennent nous voir en show, moi, je considère ça comme un privilège que les gens se déplacent. D'ailleurs, j'ai une série de shows qui s'en vient ouvert à bouteille à partir du 14 octobre. Mais on en reparlera. Mais bref, pour moi, je prends ça comme un privilège. Et puis, si je suis sur une scène, comme m'avait dit Dédé Traqué, un bon ami à moi, jadis, il est encore mon ami, mais jadis, il m'avait dit ça. quand tu es sur scène, faut pas que tu sois impressionné, faut que tu sois impressionnant.
Ah, c'est bien.
Mais j'ai toujours retenu cette phrase-là. Wow. Puis je me dis, c'est crème, c'est vrai. On est là, on n'est pas là pour être gêné d'être là. J'en ai vu des fois des artistes, là, on dirait qu'ils n'ont pas envie d'être là, ils ont en calotte les yeux, puis ils sont comme ça. Puis, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, puis il y a même des artistes dont j'ai arrêté d'écouter des albums à cause de ça. Parce que j'étais trop déçu. Je me disais, voyons, je paye pour aller voir en show, puis même pas foutu de dire bonsoir tout le monde, ça va-tu un peu? Oui, merci. Sans raconter ta vie en détail, mais je veux dire, au moins avoir un minimum de contact avec l'audience.
Ou être en retard d'une heure, deux heures, comme
à Bob Dylan est bon là-dedans, il peut être bon là-dedans aussi. Pas dire grand-chose aux gens, puis s'en fout pas mal.
Ben ouais.
Mais lui, c'est devenu un peu sa marque de commerce, là, mais quand même.
Ben moi c'est assez pour pas aller le voir.
Ben, c'est sûr. Les disques, on écoute les disques à la maison, puis ça va, tu sais. Mais moi, je pensais ça. C'est pour ça que c'est important sur scène d'être habité, d'être présent, puis d'échanger, d'avoir le contact. C'est pour ça qu'on le fait. Je veux dire, si je veux pas faire ça, je vais rester dans mon sous-sol à faire des tunes sur mon ordinateur, puis ça va être ça. Là.
Ouais.
Mais à partir du moment où tu te commets sur une scène, t'as pas le choix. Là.
Puis David, toi, t'es-tu blessé à jouer de la guitare?
Je me suis jamais blessé en jouant de la guitare, non.
Non.
Mais je pense que t'es pas vraiment supposé te blesser en jouant de la musique, là. Je dis ça comme ça, là, mais... ceci étant dit, les accidents arrivent.
Oui.
J'ai surtout dans les spectacles de Zouz, où est-ce que les gens sont particulièrement...
Parce que
le groupe est en feu, puis on donne tout ce qu'on a, comme Eric dit. Ça m'est déjà arrivé de passer très proche de me blesser maintes fois, mais je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais...
C'est pour ça que la table est en bois.
Mais en jouant de la guitare, non, je me suis jamais blessé, j'ai jamais eu de tendinite, ou j'ai jamais... non, c'était pas...
Je sais pas si son pic de guitare t'est brisé, je sais pas, là.
Ah, mais c'est peut-être juste accroché le bord du doigt. T'sais, ça prend pas grand-chose.
Ouais, ça arrive,
Si tu fais juste des fois, t'as été écorché sur le côté de la corde, mais à cause que ton bras fait ça comme ça, ben c'est sûr que le sang...
Ça m'est arrivé une fois ou deux.
Tu sais, si tu te fais aller le bras comme ça, le sang va sortir. Accident, même si c'est une toute petite coupure de rien, si tu t'arrêtes pas de te souligner le poignet, ça va gicler, c'est certain. Moi, j'ai déjà failli mourir exploser dans un show au Quai des Brumes où il y avait un problème électrique.
Oh mon Dieu.
Puis j'étais avec l'autre guitariste, Roger Miron. Puis les deux, à un moment donné, on a mis nos guitares sur le même. Après le test de son, ou je sais plus quoi. Après s'être accordé sur le même rack, côte à côte. Puis les deux guitares se sont touchées. Puis les cordes. Une corde de guitare a explosé. Ça a fait un arc électrique. Ça a fait paf!
C'est pas sérieux, ça n'a pas de sens, même.
Il y avait vraiment un problème de ground.
Oh, et là, c'est tellement petit.
J'ai juste vu la corde
des brumes, la scène est minuscule.
C'est terrifiant, cette affaire.
C'est le plus proche que j'ai été d'une blessure.
Ah, c'est terrifiant.
Si on avait, si on, peut-être qu'on s'était touché physiquement avec les instruments dans les mains, on se serait électrocuté, je sais pas.
Oh non!
En tout cas, après ça, on a remédié au problème, là, mais okay. On a été chanceux de ne pas se toucher.
Est-ce qu'il y a des scènes que vous préférez?
Non. Je pense que moi, j'aime presque toutes les scènes. Ben, je pense que c'est plus une question de moment, de public, de...
Comment
ouais,
ça se passe, là?
Oui, c'est ça, je veux dire on, j'ai fait des spectacles avec Zoos, avec d'autres groupes, dans les endroits qui étaient vraiment objectivement assez terribles, mais le moment était tellement de fun que l'endroit devenait magique. Mm. Puis à l'inverse, j'ai déjà fait des spectacles dans des endroits qui étaient majestueux, puis le public était tellement pas au rendez-vous, juste tellement inattentif, ou que c'était terrible comme moment. Fait que ça dépend, je veux dire...
Ah ben, je vais en profiter. Prends-le pas personnel. Vous êtes allé en Europe.
Oui, oui.
Comment ça s'est passé là-bas?
Oh, ben, avec Zoo, c'était notre première fois. C'est-à-dire qu'on était déjà allé souvent en...
En
Mondou, on n'est jamais en France, mais avec d'autres groupes, avec l'Opelgag ou avec d'autres trucs, avec tous nos projets autour. Mais avec ce groupe-là, c'était notre première fois. Puis, ben, je veux pas, tu sais, comme... Quand tu t'arrives dans un nouveau marché, ben, c'est comme si tu repartais un peu à zéro, là, je veux dire. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. On a fait deux festivals qui en valent extrêmement la peine, parce que les gens, même s'il y a quand même une certaine barrière de langage, même si on parle français, puis les Français, ben ils parlent français aussi, mais on n'a pas la même façon de parler le français, parce qu'on s'est fait beaucoup dire, nous autres. Mais je pense que notre musique est quand même assez... Justement, la dimension de la musique est assez importante, puis c'est pas juste une question de langue, puis de français. Je pense qu'on se fait dire qu'il reste 2 minutes.
Non, c'est correct.
Fait que c'est ça, je pense que... Pour les Européens, je pense que c'était pas juste une question... C'était pas du singer-songwriter avec le français, puis tout était pas centré autour de ça, puis fait que...
L'énergie est contagieuse, de toute
façon. Ouais, ben on fait de notre mieux.
Parce que vous faites, fait que ça transcende la langue.
Mais c'est là, ça, je pense que c'est ça, transcender la langue, je pense que c'était notre objectif. Ouais.
David, tu disais tantôt que tu rêvais de faire un album country qui a plus d'allure, là.
Ouais.
Et puis Eric est beaucoup là en ce moment, et puis il reste quasiment pas de temps, tabarouette de bine, et Seigneur... As-tu l'idée d'aller en France avec ça, mettons?
Avec le country?
Oui.
Je pense pas que ça serait grand-chose de pertinent. Moi, je suis allé jouer en France à quelques occasions. Le problème, c'est que c'est extrêmement hiérarchisé, c'est extrêmement compartimenté. Mm-hmm. C'est très, 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 très difficile pour un artiste québécois de percer le marché français.
Écoute, il va falloir se laisser comme ça. Je vous remercie énormément, David et Eric. Et Seigneur, on en aura pris plus. La semaine prochaine, on parle de voyage équitable, voyage éco-responsable avec Jad Haddad, le directeur de l'agence Terre Aventure. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Puis, je ne veux pas me répéter, mais il fait beau. C'est l'émission Trait d'Union. Alors, merci infiniment à nos deux invités. David...
Marchand.
Oui, non, mais c'est pas ça que j'allais dire. David Marchand, bien sûr, mais c'est réalisateur, auteur, compositeur et leader, peut-être, non, de Zoos. Non, vous êtes les trois pareils. C'est fini.
Ouais.
Puis merci, Eric, énormément. Et là, là. CIBL.
Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
Monsieur Bulle et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL